continuons, si vous le voulez bien, dans les mystères du labyrinthe. Cette voix, celle du labyrinthe, ressemble à celui de la grande mère serpent, qui donc se met dans cette forme pour pouvoir guérir de ses blessures. C'est une voix qui a été certainement empruntée par les membres de la lignée des mères, notamment les maris, mais bien d'autres frères et sœurs, frères de la rose, sœurs de la rose, prêtres et prêtresses, Merlin notamment. Le secret, c'est que si cela marche pour soigner la grande mère, cela marche également pour nous soigner, nous, qui sommes des vies faites à partir de la forme même du féminin. Mais ne nous trompons pas. Les blessures de l'âme, comme je vous le disais en introduction, sont bien bien loin d'être des blessures anodines, puisqu'elles vont toucher l'âme et empêcher qu'elle puisse guérir, tellement elles sont puissantes, profondes, ancrées. On ne peut pas aller directement faire face à elles, les affronter et espérer guérir. Au contraire, il nous faut faire une approche beaucoup plus douce, faite de pas en avant, de pas en arrière, d'approche, de retrait, un peu comme si l'on dressait un cheval. Tous les thérapeutes, et puis ben justement les éducateurs de chevaux aussi, vous le diront. Plus la blessure en un être est intense, importante, plus il va falloir faire preuve de douceur pour l'aborder, et donc de patience. Et ce n'est pas sans rappeler finalement cette voie du labyrinthe qui est faite de tours et de détours, jusqu'à perdre le mental, à nous perdre, afin que l'on décroche, que l'on se retrouve face finalement aux différentes douleurs. Et puis il y a une autre petite astuce que je vais déployer tout au long de ces ateliers, celle d'un éventail de solutions. L'ego ne pourra pas s'habituer à une méthode, une opération pour contrecarrer par exemple nos actions et s'habituer. Nous allons comme ça, comme dans un labyrinthe, le perdre dans un flot, dans un flux de méthodes qui vont se succéder. On va voir donc que définitivement la méthode que je vais vous proposer est celle du labyrinthe, à la fois de façon littérale, puisque nous allons faire des dessins de labyrinthe énormément. Dessiner des labyrinthes est une médecine profondément intense et revigorante. Mais également par le fait de chercher à perdre l'ego, et aussi par cette approche d'étape en étape, comme nous l'avons vu dans la vidéo. Donc, nous n'allons pas approcher directement le centre de la blessure qui pourrait finalement se fermer comme une huître lorsqu'elles nous sont approchées, hein, que ce soit par réflexe, par crainte ou tout simplement pour accuser le coup. Imaginons qu'on reparte avec une comparaison sur les chevaux. Un cheval, il va être plus enclin à coopérer avec nous, à dialoguer avec nous, lorsqu'on va par exemple lui faire une demande en douceur. Pour avancer, on peut mettre une très très légère impulsion, ou juste même serrer avec les mollets, plutôt que donner cash directement un coup de talon. Dans ce dernier cas, avec le coup de talon, le cheval va accuser le choc, va se tendre et va se brusquer et ne va plus vouloir parler avec nous. Donc, tout l'intérêt ici, c'est d'affronter non pas une blessure de l'âme, mais d'élaborer la discussion, de l'apprivoiser. Donc, on emprunte un chemin de tour, de détour. On perd notre ego pour tout doucement le mettre de côté. Et finalement, c'est toute la clé qui m'a été révélée par les maris, que je remercie, pour se trouver devant un centre qui est totalement ouvert, déployé, comme une armure, que j'expliquais en fait dans l'audio précédent, que l'on déposait peu à peu, petit à petit, Et finalement, d'être là devant ce centre qui est prêt à être transmuté de l'intérieur, à se montrer vulnérable, approchable. La technique du labyrinthe sera donc empruntée dans différentes dimensions, à la fois dans la dimension de l'ordre des blessures, comme un grand labyrinthe, mais aussi pour chaque blessure finalement, avec cette méthode-là de tours et des détours, comme si on l'approchait sur plusieurs plans. Ça peut peut-être aussi dire que, après avoir vu aussi l'étrange vidéo que je vous proposais, où du coup on obtenait pour le labyrinthe à la fin un Graal, eh bien peut-être que pour chaque blessure, on obtiendra ce joyau Graal. Et j'aime beaucoup cette idée de représentation de Graal dans le Graal finalement, parce que le Graal est quelque chose de très très difficile à saisir, mais aussi parce que dans la version de Wagner, de Parsifal, c'est-à-dire la version opéra des légendes de la table ronde, eh bien le Graal n'y est pas décrit comme une coupe, mais comme une émeraude tombée du front d'un ange. Que ce soit donc des joyaux, des Graals, peu importe, c'est des concepts auxquels on va raccrocher des symboles, parce que c'est très difficile à imaginer. Mais voilà, et on va en retrouver 5, mais pas uniquement. Parce que bien que 5 soit le nombre des blessures, et c'est pas du tout un hasard, parce que le chiffre 5 est le symbole de l'épreuve, de la blessure, des difficultés, des tristesses, que ce soit dans le tarot ou dans le feng shui, donc vraiment des traditions très éloignées géographiquement, il y a également le deuxième chemin, celui orange, qui ne correspond à aucune des 5 blessures d'âme. Alors, j'ai longtemps cherché à quoi cette zone-là correspond, et ce que j'ai trouvé peu à peu et qui revenait toujours, pour moi, ce que j'entendais, c'est que c'était lié, qu'elle était en fait la blessure du féminin. Une blessure dont parle beaucoup Marie-Madeleine. C'est une blessure qui est moins présente chez les hommes, qui ont aussi la leur, hein. Pas d'inquiétude, pas de jaloux. Eux, ils ont la blessure du cœur, celle donc sur la route verte. Et si vous êtes ici parce que vous êtes flamme jumelle, ce qui est vraiment possible chez vous, hein, puisque Marie-Madeleine elle-même était flamme jumelle, eh bien, on va retrouver beaucoup ce schéma des blessures du masculin et du féminin. On va retrouver la blessure du féminin chez le chaser ou le porteur de mémoire, qui est le plus souvent la femme, mais bon, je vais dire celui dans les deux sens parce que tout existe. Et donc, le chaser sera en tout cas celui ou celle qui a soif de comprendre le lien, et celui ou celle que du coup on va appeler, comme je disais, le porteur de mémoire. Celui-là, celle-là, peu importe son genre et son énergie, qu'elle soit yin ou yang, peu importe, eh bien cette personne a reconnu l'importance du lien en tout premier, et c'est celui qui a donc la plus grande ouverture du cœur. Il ne craint pas ses émotions, il ne se craint pas la voix du cœur, ni l'intensité de ce lien reconnu, il ne craint pas de se montrer vulnérable, de montrer ses besoins, son expression, il ne craint pas son cœur. Mais il n'a pas le sens de tout cela. Pourquoi? Et il va se mettre donc à chercher. Il a soif de connaissance, il a soif de mise en conscience. Son rôle sera d'ouvrir sa conscience pendant que son jumeau, lui de son côté, ouvrira son cœur et résoudra sa blessure masculine du cœur. Et donc, retournons chez notre ami Chaser, à quoi va lui servir cette ouverture de conscience? Eh bien, à se rendre compte que l'expression de l'amour sur Terre, que l'ouverture de son cœur sur Terre, ne peut pas être inconditionnelle, comme on le dit. Et pourquoi pas? Parce que on est responsable de notre vie, on est responsable de nos choix. Et par amour, on est peut-être tenté de prendre le poids des autres, leurs bagages et donc leurs responsabilités. Or, ce sont nos responsabilités, pardon, qui font notre évolution spirituelle. Ainsi, par trop d'amour ou trop d'aide, ce qui au départ peut paraître une très bonne intention, eh bien, au final, va se révéler être une interférence au processus d'élévation de l'autre. Ça, c'est la raison numéro 1. Mais il y a aussi, d'autre part, un amour sacrificiel de la part du chaser, qui crée une habituation chez les gens qui l'entourent, qui vont lui en demander toujours plus. Et peu à peu, il va s'épuiser, tout simplement, que ce soit en stress, en burn-out ou en crise même psychologique intense, parce que il aura voulu répondre avec cette posture de grand cœur et d'amour conditionnel et a donné toujours plus, jusqu'à cet épuisement physique ou psychique. Pour garder notre équilibre et ne pas se faire abuser par les demandes augmentantes qui ne sont pas faites exprès, mais tout simplement parce que c'est dans la nature humaine, eh bien, le chaser porteur de mémoire doit apprendre à dire non et à s'affirmer. C'est là, je dirais, les limites de l'amour inconditionnel dans notre réalité en trois dimensions sur la Terre. C'est tout à fait différent dans d'autres dimensions, c'est tout à fait différent dans les zones d'entre-deux-vie, dans certains mondes peut-être également dans d'autres planètes. Mais ici, là sur Terre, l'expérience nous dit que nous ne pouvons pas être en posture tout le temps d'amour inconditionnel et qu'il faut faire à Rome comme chez les Romains, c'est-à-dire sur Terre, nous avons à apprendre à dire non, à nous affirmer. Et c'est là que c'est difficile, s'affirmer, eh bien, en particulier face à son jumeau, parce qu'il y a toutes ces mémoires d'amour inconditionnel qui ressurgissent, c'est le porteur de mémoire. Et du coup, il va être très difficile de pouvoir s'affirmer, surtout devant lui, et de dire non. Et ça, tout ça, ce sera le grand processus du chaser, d'apprendre à s'affirmer, surtout dans son environnement, mais surtout, surtout face à son jumeau ou sa jumelle. Et en fait, pendant ce processus, par vase communicant, plus il va prendre conscience, plus il ou elle va s'affirmer, et plus le jumeau, lui, va guérir cette autre blessure du cœur, blessure masculine, et petit à petit, va ouvrir son cœur. C'est sa fonction à lui, en tant que jumeau runner, le porteur d'union. Alors, si vous regardez bien le schéma arc-en-ciel du labyrinthe, on va voir ensemble que les deux premiers chemins, jaune et orange, vont être de guérir les peurs d'être soi, les peurs d'être puissant et ferme pour s'affirmer. La route jaune sera celle de la blessure de trahison, qui est une blessure qui concerne notre chakra solaire de puissance, d'assise, de pouvoir personnel, mais aussi d'intuition. La route orange est cette route, ce chemin dédié totalement à la blessure du féminin. Ensemble, ce sont donc le pouvoir de l'abdomen que les femmes doivent retrouver notamment. Et c'est surtout souvent pour cela, en fait, que le chaser porteur de mémoire va avoir à faire ses fonctions vers, du coup, ses chakras plutôt yang, en plus avec la route rouge qui va permettre d'ancrer tout cela dans la matière, d'être vraiment intégré chez la personne, de retrouver en fait toute sa puissance abdominale, toute la puissance de son ventre. Ensuite, nous avons la route verte, celle du cœur, qui est, on peut le voir, hein, beaucoup plus courte que ce soit chez l'un ou chez l'autre. À la fois chez le chaser parce que il a déjà naturellement le cœur ouvert, on l'a vu, hein, au moment de la rencontre, et puis chez le runner, parce que son chaser aura déjà avancé sur cette posture d'affirmation des trois premiers chakras, et juste comme ça, par vase communica, aura déjà permis à son autre d'accéder à cet espace du cœur. On remarque également que les chemins suivants vont être toujours plus rapides que les premiers. Les premiers, donc les trois premières blessures yang qui sont plus laborieuses et peinantes à entrer, hein, celles de trahison, de féminin et d'abandon. Et les autres blessures vont être celles de rejet, d'humiliation et d'injustice. Pourquoi sont-elles plus courtes, plus rapides? Eh bien parce que Lorsque la blessure de peur est guérie, chez celle ou celui qui souffre de trahison, il y a souvent un blocage d'expression. C'est par exemple pour cela que la route de l'expression sera plus rapide ensuite. Il y aura un blocage énorme de résolu. Petit à petit, tout va plus vite. Et lorsque tout est guéri, eh bien le centre est atteint. Ce centre, comme nous l'avons vu dans la vidéo, peut prendre une autre forme, celle du Graal. La voie de guérison du labyrinthe, qu'on pourrait aussi appeler voie de guérison de l'arc-en-ciel, est en fait finalement un symbolisme de la quête du Graal, la voie de guérison par le Graal. Et qu'est-ce que le Graal? Encore une autre façon d'en parler, on peut avoir plein d'idées là-dessus. Comme je le disais, c'est un concept, c'est très complexe à analyser. Pour moi, je le vois comme un humain réparé, un humain guéri, non interféré, qui redevient un peu cette espèce d'humain originel, pur, parfait, qui peut parfaitement être ce qu'il est, vivre, et cela dans les deux mondes, à la fois terrestre et invisible, donc capable de réceptionner la lumière et l'amour et de le répandre pour finalement co-créer une terre paradis, un pont entre les deux mondes. On pourrait donc, comme je vous le disais, parler d'une capacité, d'un état d'être ou même d'un stade d'évolution. Et le stade d'évolution du Graal, eh bien pour moi, c'est le mariage de nos corps, âme et esprit, en accord de lumière ou de cristal, que certains ont nommé comme ça, ou également donné des noms comme Horus en Égypte ou Christ dans les contrées du Moyen-Orient. Et je le vois vraiment comme un état de grâce. Vraiment comme l'humain aurait dû être depuis le début s'il n'y avait pas eu d'interférence. Voilà. J'espère très fort que ces ateliers puissent vous aider à vous approcher le plus près possible de cet état de co-création pure, d'alignement, de pont entre les mondes. Et je vous souhaite la bienvenue sur la route arc-en-ciel.